Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite, puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine, voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Une phrase a retenu l'attention, c'est suite au Conseil des ministres en Tunisie. Le président de la République a dit qu'il voulait purifier le pays et son administration. Purifier le pays, comment faut-il l'entendre? Est-ce une connotation théologique ou une connotation technique, va-t-on dire, d'un président soucieux de faire reculer la corruption ainsi que les malversations financières et administratives qui rongent la Tunisie? C'est une question que se sont posées nombre de commentateurs ce matin à Tunis, avec ces éléments qui sont apparus toujours au sortir de ce Conseil des ministres sur quelques axes sur lesquels le président et son équipe vont travailler. Il y a un projet de loi pour la réconciliation économique. Bon, l'objectif, essayer de relancer l'économie dans un pays qui est ô combien en souffrance. Lutter contre la spéculation et la hausse des prix. C'est vrai que ces derniers mois, les prix ont véritablement valsé, comme on dit, la valse des étiquettes. Manger coûte toujours plus cher. Se loger aussi, s'habiller. Et puis également cette problématique des semences. On en parle assez peu, mais la problématique des semences, donc des prochaines récoltes de blé, d'orge, de maïs ou encore de soja. Cette question des semences a été quelque peu négligée au cours du tumulte politique des dernières années en Tunisie. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation très complexe où il manque des semences en Tunisie. Donc ça veut dire qu'il faut penser réorganiser les stocks. Ça ne convient pas actuellement et c'est ce à quoi appelle le président tunisien. Toujours dans la région, toujours sur des problématiques d'alimentation, des problématiques céréalières. En Algérie, c'est le ministre de l'Agriculture qui dit avoir l'ambition d'atteindre une production céréalière de l'ordre de 74 millions de quintaux. Alors à la fois c'est beaucoup, à la fois c'est peut-être pas assez pour réussir à apaiser les tensions sur la disponibilité des céréales en Algérie, avec malgré tout cette possibilité de recourir à la Russie qui a des stocks tout à fait considérables. Alors maintenant c'est un petit peu cher parce que les cours des céréales ont augmenté, eux aussi, mais même s'il y a cette roue de secours russe, va-t-on dire, l'Algérie essaye d'être sur le chemin de l'indépendance en termes de production céréalière, ce qui était le cas il y a très longtemps de cela et qui maintenant est totalement arrêté. Alors comment faire pour relancer ce secteur-là, avoir une industrie agricole suffisamment solide pour qu'elle puisse faire face aux aléas climatiques? Ce sont les questions qui se posent aujourd'hui à Alger. Prudence en Mauritanie, car c'est une affaire sensible. Durant 24 heures, cher Sidia, un ancien conseiller du ministre de la Justice a été retenu en détention. Il a finalement été libéré tôt ce matin. Alors, il avait été arrêté par la police judiciaire après avoir révélé dans la semaine un entretien sur une chaîne de télévision où il prétendait détenir un document impliquant plusieurs responsables mauritaniens pour un trafic de devises. Alors, il n'a pas montré le document, il a simplement affirmé qu'il l'avait. Il a dit aussi que, selon lui, le ministre de la Justice détenait ce même document, que celui-ci aurait été mis à la disposition des plus hautes autorités du pays et que cela porterait sur plusieurs millions de dollars, donc de l'argent qui appartiendrait à la Mauritanie et qui s'évaporerait vers l'étranger, vraisemblablement dans des comptes offshore ou encore dans des paradis fiscaux. Alors, soyons prudents parce que pour l'instant, on n'a toujours pas de document qui prouve la véracité des éléments qui ont été annoncés. Mais tout de même, on s'interroge sur cette garde à vue, puisque au terme de ces 24 heures, celui-ci a maintenu l'entièreté des affirmations qui sont siennes. Donc peut-être a-t-il été convenu que celui-ci présente dans les prochains jours, prochaines heures, ce dit document qui démontrerait l'existence de cette fuite de devises. Pour l'instant, pas d'information, pour l'instant, pas de confirmation. Direction l'Afghanistan, où la lutte antiterroriste menée par les talibans semble porter ses fruits. Selon les autorités de Kaboul, 250 membres du groupe État islamique au Khorasan, ISK, ainsi se fait-il appeler, aurait été arrêté en Afghanistan ces dernières semaines. Ce sont là des chiffres tout à fait significatifs. On sait qu'aujourd'hui, il y a toujours des membres du groupe État islamique qui sont présents, notamment dans la province de Ouruzgan, au centre du pays. Ils ont réussi récemment à hisser leur drapeau noir dans un petit village qui avait attiré l'attention des autorités locales qui sont intervenues. Donc, arrestation, combat. Pour l'instant, le groupe État islamique semble moins dangereux qu'il n'a pu sembler l'être au lendemain du 15 août lorsque les talibans ont pris le pouvoir à Kaboul après le départ des Américains. C'est une opération tout à fait importante qui a été menée par les services turcs. 28 ressortissants étrangers qui étaient affiliés au groupe État islamique ont été arrêtés dans la capitale à Kaboul. Un chiffre important qui dit aujourd'hui la capacité d'implantation du groupe État islamique qui réussit à survivre en Turquie parce qu'en Syrie, c'est vraiment devenu extrêmement difficile pour lui de territorialiser sa lutte. Alors, le groupe État islamique reste éminemment dangereux, nocif, notamment à la frontière entre la Syrie et l'Irak, dans cette immense zone désertique où l'aviation russe mène assez régulièrement des opérations anti-groupe État islamique. Mais il reste cette base historique d'ailleurs, puisque depuis qu'il y a eu ce discours de Mossoul en 2014, la Turquie a souvent été une base arrière, malgré elle, bien évidemment, mais considérée comme une base arrière par des membres du groupe État islamique. Alors au début, il y avait peu d'entrain des forces turques pour lutter contre, mais aujourd'hui, il semble acquis que ces services de sécurité travaillent à la lutte contre les personnes qui sont en Turquie, qui soutiennent le groupe État islamique. Ça peut être des soutiens sur des recrutements, des soutiens sur des envois de fonds, d'argent, l'organisation de transferts d'armement et autres activités illicites. En tout cas, pour ce qui est de ces 28 personnes étrangères en Turquie, elles ont cessé de nuire. Algérie. Notre destination du jour, c'est l'Algérie, où nous avons pris l'habitude qu'il n'y ait plus de manifestations du Irak. Le mouvement s'est arrêté suite aux élections qui ont été organisées par le pouvoir, suite aux arrestations de personnes qui sont toujours retenues en prison, des gens qui peuvent être considérés comme victimes de délits d'opinion. En tout cas, c'est ce qui est annoncé par les autorités algériennes, qui leur reprochent souvent d'avoir des propos qui menacerait entre guillemets la stabilité de l'État algérien. Donc on s'est habitué à ce que ces vendredis ne soient plus des journées de Irak. Et puis souvenons-nous aussi, c'est comme si nous parlions au passé, mais il en est ainsi. Le mardi, c'était la journée des étudiants qui manifestaient pour le Irak. Et aujourd'hui, on commence à avoir les premiers travaux, les premières études universitaires sur ce mouvement qui aura duré plus d'un an, ce mouvement qui est né au moment où il y a eu ce projet d'un cinquième mandat du président de feu, le président Bouteflika. Et aujourd'hui, beaucoup de chercheurs algériens se demandent mais pourquoi cela n'a-t-il pas fonctionné? Il y avait pourtant des millions de personnes dans la rue. Ce n'était pas uniquement Alger, c'était toutes les villes du pays qui étaient concernées. Il y a eu également une persistance, également une résilience de la contestation algérienne avec des engagements extrêmement forts, ne pas recourir à la violence, ne pas tout saccager, ne pas se battre, essayer d'être pacifique, essayer d'être ouvert à l'écoute, de travailler avec tout le monde. Donc malgré tous ces efforts, on se rend compte que le mouvement du Irak a vu l'herbe être coupée sous ses pieds par les autorités actuelles à Alger. Et donc, dans le cadre de cette réflexion, on peut citer des auteurs. Alors après, libre à chacun d'en penser ce qu'il veut. Mais par exemple, on a Najib Sidi Moussa qui vient de signer un livre qui s'appelle « Dissidence algérienne », une anthologie de l'indépendance au Irak. C'est sorti aux éditions Asymétrie. Alors après, on peut penser ce qu'on veut du contenu de l'ouvrage qui fait globalement l'éloge. Mais pourquoi pas, ça peut être une thèse de la gauche révolutionnaire algérienne qui, selon lui, donc n'a pas réussi à rebondir sur le mouvement du Irak. Cette gauche algérienne n'existant quasiment plus aujourd'hui, parce que les forces politiques sont quand même très atones, eh bien, celles-ci ont laissé une place vide au Irak qui n'a pas trop su quoi faire avec ces grandes rues qui étaient siennes où ils pouvaient manifester. Mais lorsqu'il a fallu passer aux actes, essayer de construire un mouvement qui soit identifiable à travers des personnalités, à travers des personnages, des corpus solides en termes de propositions politiques, eh bien, effectivement, à ce moment-là, le Irak a connu de véritables difficultés structurel. Alors c'est voilà une réflexion qui est intéressante. En tout cas, je trouve qu'il mérite d'être dit qu'aujourd'hui, les Algériens commencent à avoir un travail de recherche et d'introspection par rapport à ces mois, par rapport à ces semaines de Irak qui ont marqué une période importante du pays, puisque c'est quand même elles qui ont conduit au renouvellement des élites. Mais cela n'a pas suffi. On a pu renouveler les élites, oui, c'est vrai, mais le système, lui, n'a pas changé. C'est donc un échec. Mais aujourd'hui, les Algériens réfléchissent et essayent en tout cas d'avoir une pensée positive et de comprendre ce qui s'est, pourquoi ne pas avoir réussi à modifier ce régime algérien qui les fait tant souffrir aujourd'hui. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'était pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.